Bienvenue sur Radio Rectangle, ici Will Z, pour une émission que j'aurais préféré ne jamais vous proposer. Vous le savez, Marc Wathieu nous a quittés. Marc, c'était l'âme de Radio Rectangle. Et par conséquent, j'aimerais aujourd'hui vous proposer en guise d'hommage une interview que j'avais réalisée de lui l'an dernier, il y a plus ou moins 6 mois, dans le cadre de Rock Psychédélique à l'usage de mon fils. J'avais reçu les Love Drones. Love Drones, c'était le groupe dans lequel Marc jouait notamment de la guitare. Et si je souhaite vous rediffuser cette émission-ci, c'est tout d'abord pour lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup soutenu ce projet-ci, en particulier Rock Psychédélique. Il était derrière et il a vraiment permis que cette émission existe de la manière dont elle a existé. Mais j'aimerais aussi rediffuser cette émission parce que je trouve qu'elle montre une facette peut-être moins connue de la personnalité de Marc. On a beaucoup parlé, bien sûr, de sa carrière de chanteur sous le nom de Marc Morgan. Mais ce que beaucoup de gens ignoraient, c'est que Marc était un vrai passionné de musique plus alternative. Vous l'entendrez parler notamment de groupes moins connus comme les Residents ou Gong. Mais des groupes qui ont compté beaucoup pour lui. Il parle notamment de Gong et de l'influence que Stevie Ledge a eue sur son jeu à la guitare. Plus personnellement, je suis très heureux d'avoir pu croiser sa route, vraiment. Et j'espère que vous allez apprécier cette redécouverte ou cette découverte, pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission la première fois, de Marc au sein du groupe Les Love Drones. Un jour, Louis m'a parlé de Spider-Man.
Spider-Man!
Pourquoi Spider-Man a mis un masque?
Pourquoi alors, Spider-Man il a mis un masque?
Oui, parce que lui il a pas mis un masque, alors il devient pas Spider-Man.
Ben non. Ben tu vois, Spider-Man, c'est parce qu'il a mis un masque parce qu'il a deux identités. Il a une première identité où il a son vrai nom, son vrai prénom, un travail classique. Job alimentaire. Et puis la deuxième identité où il met un costume et il devient un super héros.
Il devient un yo-yo rapide.
J'en suis venu à me demander si en Belgique il existait des individus monsieur et madame tout le monde avec une identité secrète la nuit en costume. J'en ai conclu que j'étais un peu dans le cas. Certes, je ne porte pas de masque quand je suis sur scène ou dans mes vidéos, juste une robe d'alchimiste, mais la double identité, c'est quelque chose qui me parle.
Tu vois, dans la vie c'est pareil. Papa, il va pas dire que c'est un super héros, alors un super héros pour les nuls, mais il a aussi deux identités. Il a une vraie identité avec son job alimentaire, et puis il met un costume et il devient quelqu'un d'autre. Et il fait de la musique.
Regarde, pourquoi il a enlevé son masque?
Parce que nous on est dans la confidence. Nous on sait bien que c'est un super-héros qui a un masque, on sait qui il est.
Oui, mais le c'est pas son travail, comment on peut l'arrêter? Oui. Oui, parce qu'il lance des toiles d'araignée en silence. Et là, il dit que c'est pas son travail, papa.
Au début, il dit que c'est pas son travail parce que voilà, il a pas spécialement envie de d'utiliser ses pouvoirs à bon escient.
Et soudain, j'ai eu un déclic. Il ne fallait pas regarder bien loin. Les Love Drones, le groupe de krautrock emmené par Benjamin Skoz, le boss de mon label Freaksville, et son acolyte Marc Wathieu, le boss de Radio Rectangle. Groupe qui se produit en longue robe de bure noire au capuchon ample qui cache leur visage. C'est ainsi que j'ai rencontré le groupe pour un entretien en famille.
D'habitude, je demande aux gens de faire comme si on allait se rencontrer, mais c'est pas possible parce qu'on se connaît déjà.
Bah si, tu peux faire semblant.
Ah oui,
on peut jouer un peu acting par exemple.
Acting.
Il faut juste pas rire, tu vois, il faut que ça reste.
Non, mais c'est toujours raté, c'est jamais naturel. Alors bonjour les Love Drones. Petit tour d'horizon, d'abord une petite présentation de chaque musicien et rôle dans les Love Drones.
Je suis Marc, je suis guitariste.
Benjamin Skoz, guitariste et claviériste.
Jean-Pierre Fraise, guitariste.
Brian Droid, claviériste.
S'attaquer au dossier Love Drones n'est pas simple. Quand on parcourt les quelques biographies sur Internet, il n'est déjà pas évident de dater le début du groupe. Alors, est-ce qu'on démarre en 2012 avec le premier album officiel The Tangible Effect of Love ? Est-ce qu'on remonte en 2010 avec l'excellent album de Benjamin Scholes, ici présent, La Femme Plastique, où les Love Drones assuraient l'instrumentation derrière, ou encore avant ? Quelle était l'idée de départ ? Comment est-ce que vous êtes formés, vous êtes rencontrés ?
Bah, les Love Drones, c'est un peu une extension de Phantom. Ouais. Phantom qui était évidemment un groupe qu'on appelait d'intervention musicale qui accompagnait chaque fois un chanteur différent. Et donc on a fait une sorte de trilogie, on peut dire. Phantom featuring Jacques Duval, featuring Marie-France, featuring Lio. Et puis bon, on est parti en tournée avec Lio, quand même une tournée assez conséquente en France. Et est né l'album Femme Plastique. Mais comme c'est la on voulait faire une trilogie, on a nommé le groupe Phantom
D'accord.
Love Drones.
Ah bon ?
C'est possible.
Alors la plupart des artistes que je rencontre pour cette série, on peut leur coller l'étiquette psychédélique, mais aussi d'autres étiquettes. Souvent ils sont inclassables, c'est un peu votre cas. Mais si vous deviez vraiment définir votre musique ?
Moi quand on me demande ce que c'est comme genre de musique, moi je dis du krautrock.
Oui, c'est vrai qu'on tourne souvent sur des accords. Un accord, deux accords,
bah oui,
ce qui permet d'avoir un côté hypnotique. Et moi je chantais pas musique psychédélique, outre Syd Barrett, par le crowd rock. Je veux dire, c'est Cannes qui a été vraiment pour moi la Lomta Gomago que j'ai découvert peut-être quand j'avais 15-16 ans.
Jean Pur,
bah moi je dirais que c'est du rock instrumental à un accord à peu près.
Oui, c'est psychédélique. Peut-être gang, mais...
Pas le côté chanson d'Orgon, plutôt le côté improvisation.
Moi, le truc qui m'inspire, c'est Stevie Ledge. Bon, évidemment, je n'ai pas totalement les moyens de me prendre pour Stevie Ledge, mais c'est vraiment un point d'inspiration.
Le son de guitare de Jean-Pierre n'est pas du tout le même que celui de Marc. C'est chaque fois des sons différents, quoi. Vraiment, ouais. Même les synthés de Brian par rapport aux synthés de Phil, Phil Malfrom Uranus qui n'est pas ici, c'est deux types de sons complètement différents. Ouais, ne joue pas du tout le même feeling. Puis il faut aussi
c'est noter... un peu un hasard alors que ça se complète bien.
Bah, oui, clairement. Oui.
C'est des rencontres.
Phil n'est que hasard. Il y a au nez quelque chose.
Ce qui est encore plus un hasard. Parce qu'on l'a quand même vécu, c'est qu'on a quand même tourné des longs moments dans des conditions rocambolesques.
Ouais.
Et autant, par exemple, musicalement, il y a des complémentarités qui fait que chacun trouve sa place. Bah, humainement, on s'est jamais pris la tête.
Mmh.
Et c'est marrant parce que, à la fois musicalement, mais aussi dans la vie du groupe, ben, quand on allume les amplis, on joue et puis on enregistre. Par exemple, j'ai en tête justement un enregistrement qui n'est pas encore. Enfin, qui n'est nulle part, mais une fois on s'est retrouvé en studio l'an dernier, dans un moment où.
Pour faire du reggae.
Non, absolument pas, parce que
ça c'était le challenge.
Ça c'est une thématique qui pose problème entre nous, justement. Le mot reggae a tendance à nous...
Il y en a trois, oui. Il y a trois pour et trois contre.
Ouais, mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est retrouvés en studio. Il y a eu un contretemps. Et sans déconner, en une matinée, on a enregistré de quoi faire un album.
Ouais.
Parce qu'on était contents. Mm-hmm. Et même Brian avait écrit les paroles.
Il a chanté un morceau.
Ouais. Ouais.
Ils ont commencé à jouer la musique. Je pense que quelqu'un m'a proposé une thème.
Mm-hmm.
Pour le...
Conspiracy
Dance. Ouais. Ils ont dit Conspiracy Dance, simplement. Et j'ai écouté la musique. J'ai commencé à créer le morceau. Et j'ai enregistré directement.
C'est un peu... c'est la magie des Love Drones.
Oui, c'est comme ça. C'est un instant.
Ouais, dans le spontané, ouais.
Ouais.
Vous produisez sur scène en robe de bure noire avec des capuchons qui recouvrent vos visages. C'est l'envie de vous sentir super-héros avec une double identité, ça ?
C'est genre croston un peu.
c'est les crostons.
Les crostons du crowd.
C'est notre influence bande dessinée.
Ouais.
Enregistrement, on est naturellement bon au niveau image, on doit faire évoluer le projet aussi dans une nouvelle dimension cosmique.
Une dimension d'une secte. On avait un peu planché avec Jean Pur. On a quelques idées. J'espère que le prochain album sera l'occasion de les sortir et d'être avec des influences entre les Residents et Raël.
Ouais.
Donc,
genre propager la bonne parole.
Voilà.
Mais justement, les Residents y cachaient leur identité pour suivre leur théorie de l'obscurité, qui veut que, selon eux, un artiste est meilleur quand il est inconnu, lié à un public, il lui est impossible d'être indépendant et intègre artistiquement. Vous partagez donc cette vision-là.
On n'est pas aussi intègre que...
Non, moi je pense que c'est surtout l'idée de... C'est ça, le psychédélisme aussi, c'est de faire rentrer les gens dans un univers qui les sort d'un contexte réaliste, quoi. Et je pense que la musique des Love Drones, elle se prêterait vraiment bien à quelque chose qui la met en avant.
Mais au début, l'anonymat, c'est devenu... Enfin, c'était réservé aux groupes un peu underground, et maintenant c'est devenu un phénomène mainstream. Qu'est-ce que c'est pas plus underground de jouer sous son vrai visage et son vrai nom que sous une fausse identité?
ça dépend ce que, comment dire, le climat qu'il y a sur scène, qui peut venir des habits ou du fait d'être anonyme, je sais pas.
Actuellement, c'est de plus en plus acceptable dans la musique alternative. D'être déguisé.
Mmh. Quand tu es habillé sur scène, la manière dont tu es impliqué dans le spectacle est complètement différente.
Exactement.
Donc c'est aussi l'idée de sortir un peu de son truc. Mais ça, c'est n'importe quel musicien, je pense. Le costume, il y a une part d'acting quand même.
Bien sûr.
Le rock'n'roll, c'est ça. Hein.
Il y avait les Monks dans les années 60 qui étaient vraiment déguisés donc en moine.
Et les incantations, c'est un truc, et c'est, voilà, c'est du second degré aussi, mais c'est spectaculaire aussi, même si la musique était très basique.
Le dimanche 7 octobre 2012, à Liège, à la Caserne de Funk, grand événement, les Love Drones se produisent avec Damo Suzuki, le chanteur japonais du groupe culte de rock expérimental allemand Can, on vient d'en parler. C'est organisé comment, cette rencontre?
Bah, ça s'est fait que Damo, il a son truc, Damo Suzuki, comment est-ce qu'il appelle ça, Network, je ne sais plus.
Oui, Damo Suzuki Network.
Ouais.
Où il voyage dans le monde et se produit avec toutes sortes de groupes qui, n'importe quel style de musique. On a même vu d'ailleurs qu'un groupe de reggae en Islande.
Ah ben voilà, on en revient au reggae.
Et donc, voilà, alors ce qui était amusant dans ce concert-là, c'est qu'on s'est retrouvé des Love Drones, une version des Love Drones.
Maximum,
parce que...
C'était beaucoup,
tout
ça.
On était 12 sur scène, en fait, les musiciens du... De la première partie, qui était le producteur de PG Harvey. Mm-hmm. Son rêve était de jouer avec Damo Suzuki. Il nous a demandé est-ce que je peux jouer. Alors le saxophoniste a dit ah ouais, moi j'adore aussi.
Et alors, ce qui était très drôle, mais qui convient vraiment bien en Love Drones, c'est que on était inquiet de savoir qu'est-ce qu'on fait, ils ont fait une balance, etc. Et alors Damo, il a dit no sound check. Et en fait, il monte sur scène.
Il a dit Total Chaos, oui. One Piece.
Total Chaos.
Oui, il a dit le seul règle, une pièce. Une pièce, une morceau de 40 minutes. J'imagine qu'il dit la même chose chaque soir.
Oui, c'était très répétitif, si je me souviens bien. Il a chanté quatre phrases pour 40 minutes.
Mais c'est différent chaque soir.
Ouais.
Donc, c'est toujours
L'accompagnement derrière qui est différent. Donc,
Je me disais, ce serait quand même bien qu'on répète quelques mouvements, quelques variations, histoire justement de créer du relief, etc. Mmh. Et on avait effectivement répété une ou deux fois. Et quand le concert a démarré, ça n'a évidemment
servi à rien.
C'était drôle.
Oui. Un autre point fort sur scène, c'est le partage de l'affiche en mars 2016 à Paris avec le groupe psychédélique des 90s Kula Shaker, suite à la sortie de votre album Good Luck Universe.
On a beaucoup transpiré sous nos vêtements.
Là, vous étiez en bure.
Oui.
Ouais.
C'était un gros souvenir quand même. Ouais. C'était assez intense.
Je me rappelle clairement qu'on avait démarré avec
la
camionnette.
On était sur la route.
On était sur l'autoroute pour aller à Paris. Lorsque tout à coup,
annulé.
Il y a eu un coup de téléphone en disant que c'était annulé. Alors on a fait demi-tour comme des glands.
Et ça a été reporté 3 mois plus tard.
Pas si longtemps. Non, en tout cas, je me rappelle qu'il y avait eu ce faux départ qui était assez curieux.
Alors pour que ça reste fun, il ne faut pas vivre de la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est quoi pour vous réussir en musique?
C'est pas de vendre milliards de disques. Mm-hmm. C'est pour continuer de jouer la musique, pour aimer de jouer la musique.
Ouais.
Et pour continuer d'être créatif.
Ouais.
Ça, c'est comment réussir avec la musique, pour moi.
Ah ben moi, je rejoins Brian, évidemment, là-dessus. C'est vraiment... prendre plaisir à jouer, être content de ce qu'on fait en jouant, du résultat. Mais c'est comme réussir sa vie, hein. il y a des visions différentes de la musique.
Moi j'ai vécu de la musique pendant quand même une douzaine d'années.
Ouais.
Et
tu maintenant?
Non, maintenant je ne vis plus de la musique.
Ouais.
C'est agréable quand les choses se passent et qu'on peut imaginer qu'il y a un certain entre guillemets succès qui fait que tu peux payer tes factures avec la musique. Mais mis à part cette surprise ou cette satisfaction là, même si tu tournes tous les jours, il faut pas tourner tous les jours trop longtemps, parce que inévitablement ça
faut éviter la routine.
C'est ça, et donc
ça devient un boulot.
Moi je l'ai déjà vécu comme tel, surtout quand tu dois composer ou écrire pour d'autres.
Ce qui compte, c'est avoir un bon niveau de créativité tous ensemble. C'est ça qui est important. Et donc pour ça, effectivement, amener de la surprise. Quand on va à Londres, par exemple, c'est toujours un moment où on va enregistrer à Londres, on est hors de notre contexte habituel.
Ouais.
C'est créer des choses qui donnent de l'énergie aussi, quoi. De la créativité, mais de l'énergie. Parce que c'est ça qui fait qu'un projet peut se renouveler et chouette.
Quand on lit dans la presse, ah, j'aime bien ça, que l'album de Miley Cyrus and Her Dead Pets est le premier album mainstream psychédélique du 21e siècle. Un album long, à moitié fumeux, mais doué d'un psychédélisme girly aux couleurs saturées de son temps. Ça vous inspire quoi?
Moi je vois pas qui c'est cette fille là. C'est la petite fille, la petite Walt Disney là,
oui, c'est ça.
Qui a un peu défrayé la chronique parce qu'elle a montré ses miches.
C'est mis sous une boule.
Je crois que Miley Cyrus, le marketing reprenait peut-être des codes psychédéliques. Souvent dans la mode, on va chercher des images et des ambiances pour se différencier. Et je pense que les pop stars vont rechercher, c'est ça la pop mainstream, des idées qui découlent de là à dire que Miley Cyrus est une artiste psychédélique. Un nouvel artiste psychédélique, j'irai pas jusque-là. Mais
non, mais c'est sûrement un commentaire qui s'adresse à des bourrins qui ne connaissent pas ce que c'est.
Ce terme-là.
Ça doit être un rock ou je ne sais pas qui
commence ça. J'ai plutôt l'impression que ça doit être une tentative de recycler auprès d'un public très jeune, tu vois, qui aimerait cette petite poulette. Qu'est-ce que c'est le psychédélisme? Un truc de bazar, enfin, tu vois, un truc vraiment.
Oui, je crois qu'elle a travaillé avec les Flaming Lips, en fait. Je crois que j'imagine que c'est cet album avec les Flaming Lips
qui a poussé
à cette réflexion, évidemment, sur les Flaming Lips. Pour moi, qui est le groupe purement indé, pour moi, d'indie rock. C'est pas un vrai groupe psychédélique, les Flaming Lips. Ça a toujours été un groupe à guitare à la base, et puis qui ont bifurqué vers un très bon groupe, mais on peut pas parler vraiment.
Elle a bossé avec eux?
Tu vas écouter tout à coup.
Non, c'est parce que sûrement que la prod avait de la thune et les Flaming Lips se sont laissés attirer par.
Si vous deviez expliquer à un enfant de 4 ans ce qu'est le krautrock, vous diriez quoi?
Moi je dirais un rythme hypnotique et.
4 ans, il comprend le mot hypnotique.
Ah ouais, merde.
Un rythme comme tu frappes sur la table. Et je dis, arrête, c'est le crowd.